Bonjour bien-aimé. Oui, nous voulons dire Alléluia, béni soit le Seigneur. C'est lui qui tient nos vies. Et je prie que l'Esprit de Dieu nous donne de réaliser que la grâce de Dieu est suffisante. Deux anecdotes avant de commencer ce message de ce matin. Cette semaine, je pense que le Seigneur a fait des choses comme ça. En tout cas, je me suis retrouvé en train de visualiser un film qui parlait de migrants. Ce film a pour titre « Les nageuses ». Et c'est deux jeunes syriennes, deux jeunes femmes qui vont traverser tout le pays, qui vont traverser l'océan pour atteindre l'Europe, pour se mettre en sécurité en laissant derrière elles leur famille, leur papa, leur maman et leur jeune sœur. C'est la détermination de ces jeunes femmes à avoir une vie meilleure, mais aussi fuir l'insécurité de leur pays. C'est la détresse qu'on pouvait voir au travers de cette fragilité lors de leur traversée qui m'ont marqué. La plus jeune n'avait même pas encore 18 ans, elle avait 17 ans. Elle était une nageuse. Et la séquence la plus difficile, c'est quand elles sont sur l'océan. Et que ce navire de fortune en train de prendre l'eau, les deux sœurs se jettent à l'eau pour faire un peu de place. Et comme c'est des nageuses, elles ont nagé depuis qu'elles se sont jetées à l'eau jusqu'à atteindre la terre ferme. Elles ont nagé de toute leur force. Pourquoi elles ont fait ça? Pour avoir une vie meilleure, pour fuir la guerre derrière elles. Elles étaient déterminées. La deuxième chose qui est frappante, c'est qu'elles n'étaient pas soucieuses de leur seule vie. Elles étaient comme en solidarité avec tout le groupe qu'elles ne connaissaient pas avant, puisque malheureusement, les passeurs, en fait, ils mettent plusieurs personnes qui ne se connaissent pas ensemble, ils les mettent dans le même bateau. Mais il y a eu comme une solidarité, surtout il y avait une dame qui avait un petit bébé et l'une des jeunes sœurs était attachée à cette dame. Elles ont fait tout pour que cette dame traverse aussi. Bref, je me suis dit à un moment donné, si les hommes pouvaient comprendre que nous sommes des migrants et que nous sommes en danger sur la terre et que nous devons nous attacher au Seigneur de toutes nos forces, faire tout ce que nous pouvons pour rester attachés à Dieu et pour traverser cette vie en ayant comme objectif atteindre le paradis de Dieu où nous serons en sécurité, si on pouvait avoir cet état d'esprit, ça nous ferait du bien. Et ça donnerait peut-être, il me semble, une force à l'Église, une telle force à l'Église. Une telle force à l'Église. L'autre drame qui est lié à la migration, c'est un reportage que j'ai écouté sur France Inter. Un de ces navires qui était en détresse, puisqu'on leur donne le numéro quand ils sont en mer pour appeler les gardes-côtes, appeler plusieurs fois les services pour qu'ils viennent à leur secours. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'appels et que parfois les secours sont débordés ou parfois, même quand ces navires ne sont pas en détresse, ils disent qu'ils sont en détresse pour qu'on vienne les chercher, que les opérateurs ne savent plus quoi croire ou qui croire. Et ils sont tout le temps en train de remettre les mêmes formules. Mais où êtes-vous? Quelle est votre position? On vous a envoyé tel message. Répondez à ce message. Ensuite, nous verrons. Il se trouve que sur ce reportage-là, il y a eu un drame puisque cette embarcation, en fait, elle a chaviré. Il y a eu 27 morts. Tous ceux qui étaient dans cette embarcation sont morts. Et à la suite de ce drame, le directeur de cette agence a démissionné. L'opératrice a démissionné et tous ils étaient sidérés parce qu'en fait, ils font ce travail pour sauver des vies. Et ce soir-là, ils n'ont pas pu sauver ces vies-là. Ils étaient dépassés eux-mêmes. Vous imaginez des gens en pleine mer. En pleine mer. Vous êtes nulle part. Il n'y a personne autour de vous. Vous pouvez vous accrocher à rien du tout. Et votre vie ne tient qu'à ça. Pourquoi les gens mettent leur vie en danger comme ça? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez, quand on ne sait pas ce que c'est que ne pas avoir le choix, on peut critiquer ou on peut regarder ça autrement. Mais quand vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et ce qui m'intéresse sur cette deuxième épisode, c'est de nous rendre compte qu'en fait, les bien-aimés, dans le monde entier, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en détresse. Et nous sommes comme ces agences de secours. L'Église est là dans le monde pour être comme ces agences de secours, pour apporter assistance. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont fait ce travail. Ils nous ont tendu la perche. Ils nous ont fait passer de la mort à la vie. C'est pour ça que depuis quelques semaines, je vous donne cette petite fiche. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision, bien-aimé? Si vous ne l'avez pas prise, elle est encore là. Vous n'êtes pas obligé de me la rendre. Il y a quelques-uns qui me l'ont rendue. Je vous ai demandé de me rendre pour vous obliger à faire ce petit travail. En fait, si vous ne construisez pas votre vision, pourquoi vous êtes dans l'église, ce que vous attendez de l'église, vous n'allez pas beaucoup vous impliquer. Vous allez juste venir, et c'est déjà bien de venir. Mais si nous venons ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nos vies. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, mais veut faire quelque chose de nos vies aussi, bien-aimés. Et ce matin, on va faire un parcours pour nous montrer qu'est-ce que Dieu veut faire de nos vies. J'avais dit deux anecdotes. La deuxième, c'est lors d'un de mes voyages en avion, lors d'une escale, je regardais le tarmac de cet aéroport et je voyais ça bouger. Chacun faisait son petit travail. Les avions qui atterrissaient, les gens qui faisaient ça pour garer les avions, d'autres qui faisaient sortir les bagages. Et je me suis dit, mais c'est tellement bien organisé. Chacun sait ce qu'il doit faire. De sorte que l'aéroport fonctionne bien, les avions décollent, atterrissent, les bagages. Il y a une telle organisation et c'est supervisé par une équipe. Et là, je me suis dit, bah, c'est ce que Dieu fait. Dieu est assis sur son trône de gloire et il organise le monde entier, tout l'univers. Il met tout en place pour que l'univers fonctionne. Et c'est lui qui supervise tout cela. C'est pour cela que nous nous levons le matin, que nous nous couchons le soir et que tous les éléments de l'univers sont en place parce que c'est lui qui le fait, jour après jour. Il est le souverain qui orchestre et qui met tout ça. Donc nous avons raison de croire en Dieu. Car si tout est bien organisé, malgré ce que nous voyons de mauvais, souvent les gens disent, si Dieu existe, pourquoi le mal? Et je vous ai souvent dit, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi nous sommes si mauvais et qu'il y a encore le bien dans le monde? C'est ça la bonne question. Pourquoi nous sommes si mauvais et malgré tout, le bien est dans le monde? C'est parce que Dieu garde ce monde. Des hommes et des femmes et des jeunes renouvelés et dynamiques. Voilà ce que Dieu fait au travers de son Église. Et nous allons essayer de faire ce parcours avec le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre que nous avons étudié depuis 3 ans dans les études bibliques du soir et que nous continuons d'étudier encore. Et ce matin, je vais tenter une synthèse de ce livre. Il a 28 chapitres. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 28, et nous raconte ce que Dieu a fait avec l'Église dans le premier siècle. Et ce livre, certes, retrace l'histoire de l'Église première, mais elle est aussi là pour que les Églises, de siècle en siècle, regardent ce livre et se disent, voilà ce que Dieu veut que l'Église fasse. Des hommes et des femmes, des jeunes renouvelés et dynamiques. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 2, verset 14 au verset 21. Nous sommes à la Pentecôte C'est-à-dire à ce moment spécifique de l'histoire de l'Église où Jésus montait au ciel avec le Père, ont confirmé la venue de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Cet événement était un événement extraordinaire dans la ville de Jérusalem. Et alors que les gens se sont attroupés pour être, comme on fait souvent quand il y a un événement extraordinaire dans la ville, tout le monde approche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et en ce moment-là, Pierre va faire cette grande déclaration. En tout cas, un aspect de cette déclaration de Pierre. Alors Pierre se leva, Actes chapitre 2, verset 14. Entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin, mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, en ce jour-là, je reprendrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur terre, des signes prodigieux, sans feu, colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Amen. Alors seront sauvés tous ceux qui font appel au Seigneur. Le verset 17 dit, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Homme ici, c'est l'être humain. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. C'est Joël dans l'Ancien Testament qui fait cette prophétie, le prophète Joël. Et l'apôtre Pierre dit, cette prophétie s'est réalisée à la Pentecôte. Dieu désormais investit dans la vie, dans le cœur des hommes et des femmes, et pas simplement des gens particuliers ou des gens spécifiques, tous ceux et toutes celles qui s'approchent de lui, il leur donne la grâce de vivre la vie de l'Esprit de Dieu. De sorte que il va pousser des hommes et des femmes à être remplis de paroles de Dieu. Hein, vous savez, le thème prophétisé, c'est parler de la part de Dieu. Parler pour Dieu. Se positionner pour Dieu. Vos fils et vos filles se positionneront pour Dieu, parleront des choses de Dieu. Parler ici n'est pas juste dire, c'est vivre aussi. Les prophètes ne faisaient pas que parler de la part de Dieu. Ils vivaient ce qu'ils annonçaient de la part de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions, c'est-à-dire qu'ils rêveront, ils se projeteront dans les choses de Dieu. Vos vieillards auront des révélations. Quelle est ta vision pour ta propre vie? Quelle est la vision que tu as sur ta vie? L'apôtre Paul peut dire, si c'est juste pour le manger et le boire que nous déterminons nos vies, nous sommes bien malheureux. Nous sommes bien malheureux parce que nos vies vont au-delà du manger et du boire. On dit que ceux qui ont apporté un progrès dans le monde, c'est des gens qui rêvent au-delà d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont une vision, ils veulent apporter quelque chose à l'humanité. Et c'est comme cela qu'ils s'engagent dans de grands projets. Parfois, c'est des tout petits projets et qui parfois émerveillent l'humanité par leur innovation, leur créativité. Si le chrétien et la chrétienne ne rêvent pas de quelque chose, pour lui-même, pour sa famille, pour l'Église, alors que Dieu dit qu'il a donné son esprit pour que nous soyons vraiment des gens de ce type-là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le fait d'avoir des visions, le fait d'avoir des révélations, n'est pas juste une manifestation mystique ou spirituelle. C'est de se projeter avec l'éclairage de Dieu, avec l'éclairage de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes chrétiens et que nous ne rêvons pas et que nous n'avons pas la vision que tous ceux que nous aimons rencontrent Dieu et que à la fin de leur séjour terrestre, qu'ils soient au paradis de Dieu, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors que si nous sommes portés par ce rêve, nos prières, nos actions vis-à-vis de ceux que nous aimons, c'est de faire tout pour qu'ils découvrent l'amour de Dieu et la gloire de Dieu. Et que tôt ou tard, ils fassent la paix avec Dieu. Et que lorsque l'heure sera venue, qu'ils aient la certitude qu'ils seront au paradis de Dieu. La Bible dit que recevoir le Seigneur, nous avons cette promesse pour la vie présente, mais aussi pour la vie à venir. C'est pour les deux que nous avons le Seigneur. Tous ceux qui sont passés par l'expérience de la conversion savent qu'on est motivé par un zèle. Un zèle, c'est une passion qui nous bouge à faire en sorte que tout ce que nous aimons ne reste plus dans les ténèbres, ne reste plus sans la connaissance de Dieu, mais qu'ils découvrent ce Dieu que nous avons découvert et que leur vie change avec cette paix intérieure, cette joie que nous ne pouvons même pas exprimer, définir. Elle est tellement personnelle, elle est tellement ineffable, mais tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu découvrent cette paix du cœur, cette joie intérieure, que ni les temps, ni les circonstances ne peuvent. C'est bon? Dites-le haut et fort. Qui de vous a expérimenté un bel endroit ou a dégusté un bon mets, n'est pas empressé de le faire goûter à ceux qui l'aiment ou de dire, ah, je suis allé là, franchement, cet endroit-là, il est merveilleux. Si tu cherches un endroit où aller, c'est l'adresse où il faut aller. C'est de cela qu'il s'agit avec l'évangile de Jésus-Christ. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, recevront des révélations. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui rêvent de vivre l'amour de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, et qui rêvent que cet amour de Dieu soit contagieux. Soit contagieux. Il y a un missionnaire qui s'appelle, il est décédé il y a bien longtemps maintenant, Charles Studd. Charles Studd, c'était un Anglais à la période missionnaire en Afrique qui a été touché par ce zèle alors qu'il était issu d'une famille, on va dire, riche de l'époque. Il a tout laissé, sa carrière à l'université d'Oxford et tout. Il a dit, je vais aller en mission. On l'a appelé par la suite le champion de Dieu. Et c'est l'un des premiers missionnaires qui est allé au cœur de l'Afrique, qui est allé au Congo. Dans un temps où il ne faisait pas bon pour les Occidentaux d'y aller parce qu'il y avait ce climat qu'ils ne connaissaient pas. Et Chastu est allé là. Et ce qui l'a motivé, c'est qu'il avait une conviction que Dieu lui avait dit, tu iras au cœur de l'Afrique apporter la bonne nouvelle. Et c'est là que tu passeras tout le reste de ta vie. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais sa biographie dit qu'il n'est retourné qu'une seule fois en Angleterre, mais qu'il a passé tout le reste de sa vie avec ses peuples africains. Et la deuxième fois qu'il est retourné en Angleterre, c'est quand il est mort qu'on est venu chercher son corps. Parce qu'il avait cette vision que ses peuples avaient besoin. Non seulement de découvrir l'évangile, mais qu'il avait besoin de vivre avec ces peuples-là. C'était pas juste de leur apporter l'évangile, c'était de vivre avec eux en communion. Il a vécu au cœur là, de ce continent. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes et ils auront des révélations. À quoi rêves-tu pour ta famille? Notre monde matérialiste nous fait rêver pour nos familles de la sécurité financière. C'est pas mauvais. Il faut la sécurité financière. Pourquoi ces migrants fuient? Parce qu'ils cherchent la sécurité financière. Donc la sécurité financière est un dessein noble. Dieu le veut. Mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que ça. Allons plus loin. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42, il dit, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction de pain et aux prières. » Ce sont les quatre axes importants que l'Église, au premier siècle, c'est dans ces axes-là qu'elle a été forgée. Cette communauté, cette Église se vouait à ces quatre éléments. L'enseignement des apôtres, c'est ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Donc, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette église était assidue. Ça veut dire qu'ils aimaient cette parole. Ils aimaient qu'on leur enseigne cette parole. Ils aimaient chercher à comprendre cette parole. Parce que cette parole, finalement, elle parle de tout. Elle parle de tout. Elle parle de l'homme. Elle s'adresse à l'être humain. Elle a été écrite pour l'être humain. Dans toutes les circonstances de la vie de l'être humain, cette parole a été écrite. Dieu l'a donnée pour qu'elle s'adresse à toutes les circonstances de ta vie et de ma vie. Il n'y a pas un aspect de la vie humaine que cette parole n'adresse pas un message, une exhortation, un encouragement, un avertissement. L'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres, c'est la parole de Dieu. Comment es-tu bien-aimé? Si ton rapport à cette parole est un rapport un peu indifférent, prie Dieu, c'est pas bon. Cette parole, tu dois sentir ou bien tu dois vivre quelque chose qui te pousse toujours à la lire, à la méditer, à chercher à la comprendre. Quand tu es dans un événement particulier, ton esprit doit te dire, va lire la parole ou cherche un enseignement sur cette parole pour te donner des éléments, pour t'enrichir. Quand tu as une décision à prendre, importante ou pas, tu dois te questionner, mais que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Avant de te positionner. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Il nous donne toujours de nous dire, mais tu ne penses pas qu'il serait bien de consulter ton Dieu? Tu ne penses pas qu'il serait bien d'écouter la voix de ton Dieu? Car le Seigneur dont nous parlons est un Dieu vivant. Ça veut dire qu'il interagit avec nous. Il n'est pas un Dieu mort. Il dit les statues, il dit ça à Israël. Il dit, mais pourquoi vous cherchez des statues? C'est des bouts de bois. Pourquoi cherchez-vous des statues? C'est des bouts de pierre. Elles n'ont ni parole, ni oreille pour entendre. C'est vrai qu'on leur a dessiné des oreilles, une bouche, mais elles ne parlent pas. Mais je suis l'Éternel qui parle. Je suis l'Éternel qui écoute et qui entend et qui répond. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Quand le malheureux crie à lui, Dieu répond du haut de son ciel. Alléluia! La communion fraternelle, j'en ai parlé le 16 octobre dernier. Donc, je ne reste pas longtemps. Si vous voulez suivre cet enseignement, allez sur les sites de l'Église, vous retrouvez l'enseignement du 16 octobre où on a parlé de la communion fraternelle. La fraction de pain, on en parlera à un moment donné. Pourquoi la Sainte Cène? Quand on fait l'accompagnement au cours de croissance, on explique ça. Mais ils avaient cette idée que ce repas dernier de Jésus, où Jésus a fait cette prière avant d'aller à la croix, était important. Et Jésus lui a dit, même vivez ça, parce que ça va vous rappeler quoi? Ça vous rappelle le sacrifice que j'ai fait. Ma vie que j'ai donnée pour vous. Cette nouvelle alliance que j'ai tissée par mon sang. Vous n'êtes plus sous l'ancienne, mais vous êtes sous la nouvelle qui éclaire l'ancienne alliance. Et puis la prière, j'en ai parlé le dimanche 20 novembre. Enseigne-nous à prier. Et l'Église était pétrie dans ces quatre éléments-là. Et tout le long du livre des Actes, ces quatre éléments sont là au cœur de l'Église. Et nous avons ce refrain, parce que les 28 livres, quand on étudie, et pour ceux qui ont suivi cette étude avec nous, on étudie le livre des Actes en 6 grandes parties. Et les 6 grandes parties ne sont pas artificielles, parce que la façon dont l'auteur divin raconte le récit, à chaque partie, c'est comme s'il a fait une boucle de la fin avec cette
avec ce refrain qui revient plus ou moins dans ce sens ou dans d'autres formules, la parole de Dieu croissait et les églises se fortifiaient. Et on a l'impression qu'à chaque fin d'une série, on a cette expression, ou en tout cas une expression similaire, qui boucle une série et l'autre série commence. Comme pour dire, voici l'objectif que Dieu cherche à chaque étape de l'église. Que la parole de Dieu grandisse et que l'église se fortifie. C'est qui l'église? Ben, c'est les croyants rassemblés. Ça vous rappelle pas une parole? Que je diminue et que toi tu croisses. Vas-y, s'il te plaît. La première section, quand on lit le livre des Actes, c'est du chapitre 1 au chapitre 6. Et là, on voit que l'église est à Jérusalem. L'église au début à Jérusalem. Et qu'il y a une unité d'esprit inouïe, une unité d'esprit vraiment forte, une nouvelle communauté qui vit quelque chose d'extraordinaire, d'inédit. Ils n'avaient jamais vu ça en Israël. Il y a un zèle, il y a quelque chose qui se passe là, dans cette communauté. Et tout le long de ces 6 chapitres, on voit comment Dieu se manifeste au travers d'hommes et de femmes ordinaires. Ils n'étaient même pas connus. L'apôtre Pierre, que nous on appelle aujourd'hui le grand apôtre, il était un homme inconnu, c'est-à-dire qu'il n'était pas quelqu'un qui était très célèbre en Israël. On ne le connaissait pas. C'était un pêcheur de poissons. Un gars ordinaire. Et pourtant, Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et les hauts dignitaires ont dit, mais c'est qui ce Pierre? On ne le connaît pas. Il n'est pas dans nos grandes académies, il n'est pas dans le goût. Il est ici qui? Et Pierre dit, nous, on n'est personne. Nous, on est juste des gens qui suivons Jésus que vous avez crucifié. Mais c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est le Messie, c'est celui que nous attendions. C'est le Christ. Nous n'avons rien à vous offrir, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit, jugez vous-même s'il est convenable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous obéissons à Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia! C'est Pierre qui dit ça. Et c'est ce Pierre-là qui va conduire cette église de Jérusalem. Et la boucle de cette première section, chapitre 6, verset 16, va se terminer en disant, la parole de Dieu croissait et le nombre de disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. La précision ici que des prêtres obéissaient à la foi, c'est-à-dire les prêtres, c'était des sacrificateurs. Ceux qui étaient liés à l'ancienne alliance et qui n'avaient pas reconnu en Jésus le Messie et qui continuaient d'offrir des sacrifices au temple. Eux, au travers de l'église de Jérusalem, de la puissance, de la communion fraternelle, la puissance de la proclamation de Dieu dans cette communauté, ils ont dit, ça c'est la vérité. C'est Jésus, il est vraiment le Messie. On va arrêter d'offrir des boucs, des touterets, ça sert à rien, parce que le sacrifice ultime, il a été accompli en Jésus-Christ. Ils se sont tournés vers la foi. Et là, commence une deuxième session. C'est comme si, pour Jérusalem, Dieu dit, c'est bon. Là, maintenant, le témoignage, il est plein. Allez plus loin. Donc, ils vont aller dans toute la région de Judée, et ils vont aller en Samarie. Et là encore, Dieu va faire des choses avec des gens ordinaires. Il va avoir une persécution après le martyre d'Étienne. Et l'église, les chrétiens et les chrétiens vont se mettre en sécurité comme les migrants. Parce qu'ils seront traqués à mort. Ils vont fuir. Et les apôtres vont leur dire, allez vous mettre en sécurité. Mais les apôtres, ils vont pas quitter Jérusalem. Ils vont rester dans la ville. Incroyable. On vous cherche à vous tuer. Et vous dites aux autres, allez vous mettre en sécurité. Nous, on ne bouge pas. Et il y a même des frères qui vont rester et qui vont aller chercher le corps d'Étienne et qui vont lui donner une sépulture alors que leur vie était tous en danger. Frères et sœurs, ces hommes-là et ces femmes, c'est des hommes comme nous, mais ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Ils avaient compris que ce qu'il y a de plus pertinent au monde, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, quand le cœur... C'est pour ça que C'est pour ça que quand le chrétien ne vit pas selon la volonté de Dieu, ça crée une perturbation dans le monde.
Quand nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, ça crée une perturbation dans le monde. Parce que Jésus dit, de par l'amour que vous allez manifester, le monde saura que vous êtes mes disciples. Vive l'amour de Dieu dans nos vies vraies. Ça coûte quelque chose. Mais en retour, ça fait un écho tellement positif. Nous ne nous en rendons même pas compte nous-mêmes. Nous ne nous en rendons pas compte nous-mêmes. Nous ne nous en rendons pas compte nous-mêmes. Dans cette section, ces hommes et ces femmes ordinaires vont juste se mettre en sécurité. Mais le texte, au fur et à mesure qu'on le lit, dit, au fur et à mesure que chacun trouvait un espace, une ville, un village pour se poser, non seulement ils se posaient, mais ils disaient les merveilles de Dieu. Des gens qui venaient d'échapper à la mort à Jérusalem trouvaient l'occasion de dire les merveilles de Dieu. Parce qu'ils avaient goûté que l'Éternel est bon. Parce qu'ils avaient goûté que l'Éternel est bon. Et la section finit en 9:31 disant, l'Église sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie vivait donc en paix. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle s'accroissait. C'est-à-dire, malgré la persécution, Dieu affermissait son peuple. Et l'Église continue à faire cette œuvre de bonne odeur là où ils sont. Le monde, notre monde, les nouvelles parfois sont... Tu t'es dit... Comme un monsieur de 31 ans, au passage devant un collège, repérer une jeune fille de 14 ans, l'enlever, la violer, la tuer. Comment on peut faire ça? Je me dis, si c'était un chrétien, il n'aurait pas fait ça, parce que son cœur serait renouvelé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons parler de Dieu. Que les hommes et les femmes se tournent à Dieu, que ce cœur noir, ce cœur de pierre, ce cœur endurci, malmené par Satan, soit arraché de l'esclavage du diable et mis sous la main du Dieu d'amour. Défiez-vous, défions-nous, bien-aimés. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes et des révélations. La révélation la plus noble que nous pouvons avoir, c'est de vivre l'amour de Dieu dans notre quotidien. Vivre l'amour de Dieu dans notre quotidien. Laisser nos vies être impactées par la volonté de Dieu. Nous avons un défi. En tant que famille chrétienne, nous avons un défi. C'est de montrer que Dieu existe. De par la vie que nos familles mènent là où nous sommes. Quelqu'un a dit, ce que tu es là m'empêche de croire ce que tu me dis. Puisque la façon dont tu vis n'est pas conforme à ce que tu veux m'annoncer comme bonne nouvelle. Donc avant d'annoncer là, démontre-moi que ce que tu me dis là, toi-même tu es convaincu, toi-même tu le vis. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais ça veut dire que nous essayons d'être parfaits. Mais en plus, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc il nous aide. Sept fois le juste tombera, mais sept fois l'Éternel le relèvera. Il va nous arriver de tomber, mais nous ne resterons pas terrassés. Non, non, non. Parce que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Et nos vies comptent à ses yeux. Et quand le Seigneur va donner à ses hommes et à ses femmes de remplir cette région de Judée, de Galilée, de Samarie, ils vont aller plus loin. La section 9:32 à 12:24, on est à Antioche, donc on est au-delà des territoires, dit des territoires qui sont habituellement habités par des juifs ou des métis juifs, parce que la Samarie, c'est aussi des juifs métis. Donc là, on est dans des territoires où il y a beaucoup plus de non-juifs, où c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le Dieu d'Israël, et c'est là que commence le ministère de l'apôtre Paul avec sa conversion. Et Dieu va lui dire clairement, toi, ta mission, ça sera d'aller dans ces peuples-là, non-juifs, pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, il va établir des fondements solides
Parce que ces gens-là n'ont pas un arrière-plan de l'Ancien Testament. Ils ne connaissent pas le Dieu biblique. Ils connaissent leur Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu. Donc, il va avoir un travail de formation biblique profond. Barnabas et Paul même vont s'arrêter pendant une année dans une église pour former, enseigner. Et c'est là que pour la première fois, on va appeler les croyants des chrétiens à Antioche. Parce qu'ils ont été transformés par la puissance de cette parole à laquelle ils ont été enseignés. Jésus dit, vous êtes heureux pourvu que vous écoutiez. Non. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ce que vous avez entendu. Il dit, car celui qui écoute et qui ne pratique pas, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Le torrent est venu, le vent s'est levé, la maison a été détruite. Mais celui qui écoute et qui laisse cette parole s'enraciner, qui pratique, est comme quelqu'un qui a bâti sur du roc. Le vent s'est levé, le torrent a débordé, mais la maison n'a pas été emportée. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, et que vous n'aimez pas vous enrichir de la profondeur de la parole de Dieu, vous êtes en danger, votre foi est en danger. Et vous mettez vos familles chrétiennes en danger, parce que vous êtes plus influencés par autre chose que la parole de Dieu. Nous sommes tous à ce niveau-là, mais certains d'entre nous ont fait l'effort de progresser. Par contre, plusieurs ont abandonné, se sont relâchés. Si tu es dans ceux qui sont relâchés, ressaisis-toi mon frère, ressaisis-toi ma sœur. C'est aujourd'hui le jour du salut, ne reporte pas à demain, car demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que Dieu te parle. Et cette section finit en 11-21 avec cette phrase, cette parole du moins. 12-21, j'ai mis 11, mais je pense que c'est 12-21. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crut et se convertit au Seigneur. Or, le Seigneur était avec eux. Comme s'il ignorait. Parfois, ça nous arrive. On est chrétien, mais on ignore que le Seigneur est avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pas juste des paroles, c'est des promesses qui sont tellement fortes qu'en des moments, il y a des moments où ces promesses là, il faut qu'on s'en saisisse pour qu'elles aient une réalité dans nos vies. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous aide, bien aimés. Nous sommes l'Église de Dieu et nous voulons apprendre de l'Église du premier siècle. Nous voulons apprendre. Merci Seigneur. J'ai dit 11-21, en fait c'est pas ce verset là. C'est 12, 12, 12, 24. Voilà, 12, 24. La parole de Dieu est de plus en plus connue. C'est là que la section commence. La parole de Dieu est de plus en plus connue. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Et après cette section à Antioche, on arrive à 12, 25, 16, 5. On est en Asie mineure. Où là encore, le Seigneur, au travers des apôtres, va faire établir l'Église. Et cette fois-ci, on est dans le territoire du monde entier. N'est-ce pas? Actes chapitre 1, verset 8 dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Et à partir de cette section, 12, 25, 16, 5, on a commencé à être dans les extrémités de la terre. Et là aussi, Dieu va faire des choses incroyables. Il va faire des choses incroyables. Et la section va se finir en 16:5 avec ce verset. C'est un livre qui se lit comme un roman. Donc, je vous encourage à lire le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir, c'est une lecture qui est soft, qui coule parce que c'est l'histoire qui est racontée, mais qui est émaillée de la présence de Dieu. Les églises deviennent de plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. C'est simple. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Les églises se fortifiaient dans la foi. Est-ce que notre église se fortifie dans la foi? Il me semble que c'est ce que nous cherchons dimanche après dimanche, mardi après mardi. C'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Que cette église se fortifie dans la foi. Et qu'ensuite, nous puissions aussi attirer d'autres personnes à Dieu pour justement augmenter en nombre. Ce n'est pas juste des statistiques. C'est le fait que nous sommes convaincus qu'il y a encore d'autres enfants de Dieu qui ne sont pas ici et que Dieu veut attirer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, la dernière section, 19, 21 à 28, 31, le dernier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, duquel il ne reviendra pas. Mais on voit que dans cette section, Paul fixe le regard vers le but. Beaucoup de fois, on va essayer de le décourager d'aller à Rome. Mais il va dire, mais Dieu m'a dit, c'est là que je dois aller. Dieu m'a convaincu que c'est là que je dois aller. Et théologiquement, on cherche à comprendre pourquoi. Et on a une réponse, on dit, c'est parce que Rome était la capitale du monde civilisé de l'époque. À l'époque, si tu allais à Rome, tu arrivais dans le monde civilisé de l'époque. C'était la grande capitale de l'Empire romain. Nous sommes au premier siècle. C'était l'apogée, semble-t-il, de la civilisation de l'époque. Et Dieu voulait que justement la bonne nouvelle arrive là-bas. Puisque c'était qui siégeait à Rome? C'est César Auguste. Et il était le seul à porter le nom Seigneur. Nous, on ne comprend pas parce qu'on a une traduction française et qu'on est au XXIe siècle. À l'époque, on appelait personne Seigneur sauf l'empereur César Auguste. Donc, quand les chrétiens ont commencé à dire « Jésus est Seigneur », en fait, ils disaient que César n'est pas Seigneur. César est un petit Seigneur. Le vrai Seigneur, c'est le Christ. Et c'est pour ça qu'on les a persécutés. Parce que les chrétiens avaient compris que le vrai Seigneur, celui qui trône, ce n'est pas César Auguste, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Prince de la paix, le Père éternel, merveilleux conseiller, l'étoile brillante du matin. Et l'apôtre Paul va continuer son travail. Et cette section, elle est émaillée de petits incidents, mais il va garder le but jusqu'au bout. Et même quand il sera en résidence surveillée en prison à Rome, c'est là que sa vie se termine. Le texte, c'est beau. La fin de ce chapitre 28 est merveilleux. Versets 30 et 31 dit, Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Puisqu'en tant que citoyen romain, certes, il avait été plus ou moins accusé, mais il n'avait pas encore été jugé puisqu'il en avait appelé à César. C'était dans le droit romain qu'un citoyen né romain peut demander que ce soit la juridiction principale de Rome qui le jugeait. C'est ce qu'il a demandé. Donc, en attendant son jugement, on lui a dit, tu bouges pas de Rome, tu es en résidence surveillée, tu peux prendre une maison où tu veux, mais tu ne sors plus d'ici jusqu'à ce que ton procès arrive. Et il a pris cette maison pendant 2 ans. Le texte dit, Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il a louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Alléluia. Alors que dans d'autres lettres, il dit, je ne sais pas si je vais revenir de cette prison. Mais peu importe. La dernière qu'il a écrite, c'est la deuxième à Timothée. La dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite, c'est 2 Timothée. Si vous lisez 2 Timothée, ça s'appelle le testament de l'apôtre Paul. Il dit, car ma vie est une libation. Je ne sais pas si je vais partir de cette prison, mais ce que je sais, c'est que je sois vivant ou mort, c'est la bonne nouvelle de Christ que je vais annoncer. Cet amour de Dieu. Et l'apôtre Paul est pétri ça. Il dit, je suis avec vous comme une mère. Je vous porte comme une mère, l'amour maternel. Je suis avec vous comme un père, cet amour paternel. Je vous aime. Combien de fois il a dit ça aux églises? Combien de fois il a dit ça à ses collaborateurs? Il dit, car l'amour de Christ nous étreint. Car l'amour de Christ nous étreint. Et comme cet amour nous étreint, nous voulons aussi embrasser les frères et les sœurs dans la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour de Dieu et des bien-aimés. Il
Il s'agit de l'amour de Dieu. C'est pas juste une religion, c'est pas juste une prédication, c'est pas juste une parole. Non, c'est un projet d'amour que Dieu met au cœur des hommes et des femmes qu'il a convertis par son Fils Jésus-Christ. J'aimerais terminer. L'épuisement des ressources de l'homme n'est pas la fin de celle de Dieu. Et l'apôtre Paul le sait que trop bien dans son ministère. Et l'Église du premier siècle le savait que trop bien dans un contexte où ils étaient inédits, où on ne connaissait pas ça, où c'est eux qui ont créé l'Église par la force du Saint-Esprit. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer que sur la force, qu'ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Et tout le texte est rempli de cette présence de l'Esprit de Dieu au travers les péripéties, mais aussi les avancées de l'Église, bien-aimé. Et l'apôtre Paul, dans un moment difficile, dans ce troisième voyage missionnaire, entre le chapitre 18, verset 21, et le chapitre 20, il vit un moment très difficile dans son ministère. Et c'est là qu'il va écrire la deuxième épître aux Corinthiens. Et dans le chapitre 4, il va dire ce que vous voyez là. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Alléluia. 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 Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Waouh. Quelqu'un a paraphrasé. Tu peux mettre la slide après. Et il dit, cerné, mais non coupé de tout. Ne sachant que faire, mais jamais privé de tout espoir. Pourchassé par les hommes, mais jamais abandonné par Dieu. Souvent terrassé, mais jamais achevé. Alléluia. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. Il écrit ça entre le chapitre 18 et le chapitre 20. Et il y a encore 8 chapitres après. Donc après ça, il s'est relevé. Et on a le verset 30 ou 31, il dit, il était là. Et chaque jour, il accueillait ceux qui étaient là. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Si tu traverses des moments où tu te sens cerné de toutes parts, où tu as l'impression, mais pas que l'impression, où tu vis quelque chose qui semble te dire que tu es accablé de toutes parts. Accablé, ça veut dire tu ne sais où mettre la tête. Tu tournes là, ça va pas. Tu tournes là-bas, ça va pas. Dans tous les sens, tu es accablé. Tu n'as pas de direction où t'orienter. Accablé de toutes parts. Cependant, même si la détresse semble être omniprésente, elle ne va pas t'écraser. Elle ne va pas avoir raison de toi. Même si tu ne sais plus à quoi t'accrocher. C'est ça, être désemparé. Désemparé, je ne sais plus à quoi m'accrocher. Parce que dès que je m'accroche à quelque chose, ça lâche. Même si tu es désemparé, tu n'es pas désespéré parce que ton Rédempteur est vivant. Et qu'il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Dis-moi. Persécuté, ça il s'agit de ta foi. Quand tes valeurs chrétiennes sont mises en difficulté, quand parce que tu es chrétien et que tu dis, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas vivre ça parce que je suis chrétien, je suis chrétienne, et qu'on dit tant pis pour toi, c'est ça la persécution. Tant pis pour toi, ça va pas pouvoir le faire, on va pas pouvoir te donner. Tu ne vas pas pouvoir la guérir. Tu vas rester comme tu es. Et dis, sache que tu n'es pas abandonné. Au contraire. Jésus dit, celui qui se positionne pour moi, je me positionne pour lui. Terrassé, ça c'est le, C'est-à-dire que tu as tout essayé, mais là, tu n'as plus de force. Tu es à terre, comme on dit. Tu es pataplouf, tu es à terre. Il dit, c'est vrai que tu es à terre, mais tu n'es pas anéanti, parce que ta vie ne dépend pas des temps et des circonstances. Ta vie dépend de ton Dieu qui est en toi. Et quand, tant que lui n'a pas dit son dernier mot, il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le prophète, il a dit quoi? Il dit, car si elle tarde, fais quoi? Attends. Car certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Car certainement, elle s'accomplira. Voilà la vie de cette première église. Voilà comment ils ont fait pour que 2000 ans après eux, nous soyons sauvés. Ils ont tenu. Ils ont vécu, ils ont eu des visions, ils ont eu des songes, ils ont eu des révélations, ils ont marché dans la foi, ils ont proclamé l'évangile, ils ont vécu en chrétien et ont pu le transmettre. Et 20 siècles après, l'église est vivante. Alléluia! Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus dit, je reviens bientôt, on ne sait pas le bientôt. Ça peut être encore dans 20 siècles. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce qui vient demain dépend de nous aujourd'hui. C'est que l'église sera demain, dépend de l'église que nous sommes là, à Créteil aujourd'hui. Frère, sœur, lève-toi. Ici, là, Dieu t'a mis ici. Si tu es de passage, ce message est pour toi aussi. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Toi, ceux que tu l'entends, où je suis en train de te parler. Mais pour ceux qui sont concernés, qui sont ici, levons-nous, bien-aimés. Continuons notre marche. Avec détermination. Avec zèle. Avec entrain. Vivons dans nos familles, comme des chrétiens. Laissons nos vies familiale, être pétri de la mort de Dieu. Nous avons un défi, c'est que par l'amour que nous manifestons, le monde saura que nous sommes les disciples du Seigneur. Et c'est à nous de continuer le travail. Oui, on peut laisser. Je peux laisser les autres. J'ai déjà tout dit. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que son esprit nous fortifie. Et ces fiches-là, faites-les, s'il vous plaît. On les descend, motivez-vous. Faites ça. Merci à la sœur qui m'a donné ce matin. Ça m'a permis de vous rappeler ça. Si vous ne l'avez pas, il y a encore quelques-unes, je crois que c'était derrière. Je ne sais pas où est le mot, on va le chercher. Si vous n'avez pas, venez prendre. C'est des petites méthodes pour nous aider à fixer des objectifs avec la grâce de Dieu. Et de dire, Seigneur, c'est ça que je veux, selon ta volonté. Amen. Et j'avais... Comme l'église de Dieu me plaît, peu importe la taille, mais l'église où il me met, j'aime l'église de Dieu, j'aime les hommes et les femmes à qui Dieu me confie. Souvent les gens disent que c'est à toi que l'église, que Dieu a confié l'église. C'est faux. Dieu m'a confié à des hommes et des femmes parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes ensemble. Amen. Et quand je viens ici, parfois j'ai des rêves. Déjà, quand je rentre dans cette salle, que ce soit en semaine ou pas en semaine, j'aime pas qu'elle soit désordonnée. J'aime pas. Peu importe si elle est pas à nous, mais c'est ici qu'on fait le culte de Dieu. Donc, dès que je viens les mardis, je vais ranger. S'il y a plein de choses, je vais pas aller. Parce que pour moi, c'est la maison de mon père. Et que je sais pas qui je vais recevoir. Si un non-croyant passe et qu'il cherche une église, qu'il me voit, qu'il veut rentrer dans l'église et que l'église... C'est pas possible. Vous comprenez ce que je dis? Des fois, je m'assois, je me dis, je vous l'ai déjà dit, mais je me dis, regardez en face de nous, il y a des bâtiments. Ça veut dire que tous ces hommes et ces femmes qui sont là voient cette église depuis chez eux. J'ai envie de mettre des mots là, mais je peux pas faire ça seul. J'ai envie de mettre des mots genre, sois fort. Pas des mots avec Jésus-Christ, mais des mots d'encouragement sur cette vitrine. Et on a le droit de le faire. Pourquoi on ferait pas ça? Pour donner du courage à tous ceux qui voient cette église 24 heures sur 24. Pourquoi vous ne verrez pas ça? Des fois, on prend notre café dehors. Je dis, Seigneur, j'ai envie qu'on écrive quelque part en gros. Venez, vous êtes les bienvenus à ce café. Bah oui. Si les gens viennent, ils viennent. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. C'est pas grave. Mais au moins, ils savent qu'on n'est pas là, égoïste entre nous, tous les dimanches, en train de prendre notre café ensemble. Et que ce que nous on veut, c'est qu'ils viennent prendre le café avec nous. De toutes les façons, on a le robinet, on a des bouilloires. Donc, on peut chauffer de l'eau, tant qu'on veut. Frère, rêvons. Rêvons d'apporter l'amour de Dieu là où Dieu nous place. Amen.